Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Dupont, le matin.
Sa chronique est tous les mardis. On va peut-être parler de Kotkaniemi. Qui est-il? D'où vient-il? Chroniqueur de hockey, très chevreux.
Alors, on va le rejoindre tout de suite avec un peu de retard. Bruno Gervais, bon matin!
Bon matin, la gang!
Bon, tu t'es levé debout pour écouter ça, là?
Ben oui! Ah, ben oui, toujours!
Est-ce que tu écoutais l'hymne national quand tu jouais?
À moitié, parce que c'était un moment pour moi de... Tu sais, c'est devenu comme une espèce de superstition où quand ça commençait, je rentrais dans ma tête, je faisais une prière, puis c'était en préparation au match. Fait que, c'est le moment que juste avant le match, tu fais l'espèce de vide. T'es dans ta bulle, t'es dans ta zone, tu fermes les yeux. Puis quand ça terminait, là, je rembarquais. Fait que, mettons que, non, j'étais ailleurs pendant cette hymne nationale.
Fait que la foule embarque. Je vais te donner l'exemple. C'est que je suis allé au match Rangers-Sénateurs samedi après-midi. Puis, hey, c'est une petite fille de 13 ans. J'aimerais ça, si vous pouvez la trouver, la vidéo, là. Pierre, des fois, si tu trouves ça. C'est une petite fille de 13 ans au Sénateurs samedi qui chantait l'hymne national. Je vous en parle, j'en ai des frissons. C'était époustouflant pour une fille de cet âge-là, de créer cette émotion-là dans l'interprétation des hymnes nationaux. Puis je me demandais si les joueurs étaient conscients des fois que ça pouvait être un peu plus... Puis c'est vrai que ça briserait peut-être la préparation si tu étais ému par l'hymne national, mais c'était quand même percutant comme performance.
Non, mais tu as des endroits, je me rappelle, que ce soit dans la Ligue américaine, que ce soit dans la Ligue nationale, ça arrive des fois que ces personnes-là viennent... mettons, à l'époque avant COVID, là, que tu avais le droit de croiser du monde puis de parler à du monde de proche sans problème. Tu pouvais rencontrer ce monde-là, il arrivait à l'aréna assez tôt parce qu'il faisait les tests, etc. Fait que des fois, tu avais des conversations, puis c'était, tu avais l'organisation, il y a des endroits où ils faisaient vraiment un effort pour aller chercher puis impliquer les gens de la région. Je sais que le Lightning, tout ce qu'ils ont comme programme, tu sais, oui, c'est une équipe extraordinaire sur la glace, mais tout ce qu'ils font en dehors est aussi exceptionnel. Puis c'en était, eux autres, ils ont les héros. À chaque mois, je pense qu'il y a un héros de la communauté. Souvent pour les hymnes nationaux, il y avait des gens qui amenaient ici et là. Puis c'était toutes des histoires, puis c'était des écoles dans certains endroits, un Ben une fois, une chanteuse une fois. Puis il y avait tout le temps des histoires reliées à ça. Fait que oui, ça, c'est intéressant. Fait que des fois, tu sais, m'a dit, j'embarquais dans mon moment, mais je pouvais voir le début. Des fois, si ça faussait les deux, trois premières notes, là, je partais dans ma prière, mais sinon, des fois, je restais accroché un peu plus longtemps, j'écoutais quand même. Puis t'as des endroits où la foule embarque. T'as des endroits où l'hymne national, c'est un événement, ça embarque tout le monde dans le match. Fait que ceux-là aussi, tu peux les apprécier un peu avant que le match commence.
Good. J'ai vu, Ray m'a montré une photo ce matin de Joe Drouin qui est allé hier au match des Seahawks. Il joue ce soir, il mouillait à 45 hier, il avait de l'air à faire frette. C'est-tu le genre d'affaire qui est très fréquent, donc d'aller voir, que ce soit un show de musique, peut-être moins, là, mais un show de musique, une game de foot, une game de base.
La lutte, souvent on les voit à lutte, les athlètes professionnels.
Ben oui, on la lutte.
C'est très vrai.
Personne va à lutte.
Bruno, c'est vrai?
Ben, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je l'ai fait avec les Islanders, parce que je veux pas, quand dans ton amphithéâtre, il y a toutes sortes d'événements, des fois, tu peux, tu pratiques pas là, t'arrives, puis là, faut que tu transfères ton stock, peu importe, t'arrives, il y a tout le temps, il y a des spectacles de musique, il y a des spectacles de toutes sortes, puis à un moment donné, la lutte était venue à New York, fait qu'on était une gang de gars, on s'est dit, ben, on va aller voir ça, puis on a eu la chance de rencontrer les gars qui étaient là, on a passé une couple d'heures avec eux autres après le show. Puis pendant le show, c'était dans les années, puis je sais même pas s'il était encore là, s'il fait encore de la lutte, mais c'était John Cena. Puis il nous avait mis comme à côté du ring, et John Cena venait nous parler des fois pendant ses combats, puis il nous niaisait un peu pour faire activer la foule. On y avait remis un chandail et tout, fait que ça avait été super le fun. Mais j'étais pas un grand fan de lutte avant ça. Mais cet événement-là, pour moi, j'ai tellement gagné de respect parce que je pensais que les joueurs de hockey, oui, on était durs avec notre corps. Mm-hmm. C'est rien comparé avec les lutteurs. Puis ils nous expliquaient un peu.
Ah ben, t'es sérieux, là. Physiquement, c'est exigeant, oui, le spectacle qu'ils donnent.
Mais voyons.
Parce que une fois à côté sur le ring, c'est là que j'ai réalisé que le gars, tu sais, le gars qui se lance la troisième corde, là, t'as beau avoir bien de la technique, les contacts que ça faisait, là, corps à corps, là, l'impact, la force de l'impact, c'était exceptionnel. Puis après, à discussion avec eux autres, tu sais, ça arrive, tu cours de même, le gars, il fait attention un peu, il va pas te faire trop mal, mais le genou te plie d'un bord, tu te fais mal à l'épaule, mais toi, tu packes tes affaires, puis il faut que tu ailles au show après. Puis t'en as peut-être, t'as des grosses vedettes qui, eux autres, ont fait beaucoup d'argent, puis ils ont un rôle, puis ils vont tout le temps baigner autour, mais t'as une grande partie des lutteurs qui sont là un bout, sont plus là, sont là, ils reviennent un bout, puis eux autres sont payés quand ils sont là. Fait, lui, il se fait sauter dessus par un gars de 300 livres sur le genou. Il faut qu'il soit là au show d'après s'il veut être payé. Fait que parler de jouer blessé puis de trouver des façons de rester dans le ring, m'a dit qu'il était pas mal hardcore, les gars de la lutte. Fait que je leur lève mon chapeau pour ça parce que c'était assez phénoménal. Mais l'impact, là, épaule à épaule, le son que ça faisait, c'était impressionnant aussi.
Donc, mais je reviens à ma question initiale. Est-ce qu'il y avait, ouais, pas un couvre-feu la veille d'un match? Parce que dans la Ligue nationale, d'après moi, des couvre-feux.
Il n'y a plus de couvre-feu, je pense.
Ça n'existe plus, ça, hein? Ben. Mais est-ce que ça existe encore, donc, Bruno, les couvre-feux? Puis est-ce que des fois vous étiez limité, on joue demain, fait que pas question d'aller au foot, au base ou à n'importe quoi la veille d'un match?
Ben oui, il y a des couvre-feux, puis ça va être mentionné la veille des matchs, de rentrer une certaine heure. Oui, il y a des équipes qui vont mentionner, les équipes vont le mettre dans leur règlement d'équipe. C'est pas quelque chose qui est vérifié, parce que dans le speech de ça, c'est un peu laissé entre les mains du joueur de prendre soin de lui. Puis t'es dans un air où, mettons que si tu rentres pas à l'heure, ben ça va être les médias sociaux, ça va se voir, ça va se savoir de toutes sortes de manières le lendemain. Fait que c'est la responsabilité des joueurs.
Ouais, puis le défi.
Mais oui, la veille des matchs, tu sais, souvent ça va être 11h30, minuit dans ces eaux-là que les gars ils soient rentrés à l'hôtel.
Ouais, mais oui.
Mais t'as le temps. Puis oui, ça c'est une affaire. Mettons, t'arrives dans n'importe quelle ville. S'il y a un spectacle, s'il y a un match de foot, un match de basket, un match de baseball, peu importe, c'est à la disposition. C'est facile d'accès pour les joueurs par le fait que le gars du PR, le gars qui s'occupe de ça pour ton équipe, les relations publiques, a une relation avec les gars partout dans la ligue, c'est qu'il peut arriver et avoir un contact direct avec l'équipe qui est là. Exemple, le Kraken de Seattle, qui, eux, ont leur relation avec les Seahawks. Fait que t'es dans l'autobus, tu veux juste dire « Hey, je pourrais avoir une couple de billets pour ce soir. » Lui, il envoie un message texte au gars qui était en communication avec cette journée-là anyway. Et lui, il dit « Ben oui, regarde, pas de problème. On va t'avoir, il y a des billets, ils sont 150$, 200$ le billet. Puis tu peux les avoir, je vais les laisser à l'entrée du stade. Parfait, merci. » Fait que tu débarques de l'autobus, puis tes billets sont déjà réservés, sont à la porte. Fait que pour ça, c'était facile, mais que ça soit spectacle ou quoi que ce soit. Oui, ça arrivait souvent que les gars allaient manger. Puis, tu sais, tu vas voir un spectacle, tu vas voir une game de quoi que ce soit. Tu reviens, tu es dans ta chambre d'hôtel à 10h30, 11h, tu es couché, puis le lendemain, tu vas à ta game.
Puis, de toute façon, je comprends, il y a peut-être moins de couvre-feu aujourd'hui, mais le défi, je pense que c'est pas de faire rentrer les gars à l'hôtel, puis même dans le junior, ils doivent avoir ça. C'est quand le gars, il est soit dans sa famille de pension ou à l'hôtel ou chez lui. Puis, je me souviens, c'est les Jets, tu m'avais parlé de ça, Ray, c'est le gaming. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes joueurs de hockey qui gament et des fois, ça n'a pas de fin. Fait que c'est ça qui peut peut-être brûler pour faire que les gars se couchent tard s'ils sont accro au gaming.
Ben oui, ça, c'en est une grosse. Puis c'est un peu. T'es dans une époque où c'est. Puis on parle de société en général. Là, c'est moins de sortir, c'est moins d'aller dans ces événements-là. Les bars en ressentent. Tout ce qui est ces événements-là live, il en ressemble beaucoup parce que les gens sont moins portés à sortir tard comme ça a déjà été à une époque, mais parce que t'as tout chez toi, tout dans le confort de ton lit ou de ton salon, puis les jeux vidéo, c'en est une, les médias sociaux, etc., les écrans, fait que t'es accroché là-dessus, oui, puis ça, c'est pas mal plus un gros débat, un défi pour les entraîneurs que de s'assurer que le gars est rentré, parce que t'as 50 000 journalistes qui se promènent autour de ces joueurs-là avec leurs caméras, avec leur téléphone. Fait que tout le monde se sent très surveillé de base. Cette espèce de pression sociale-là avec les médias sociaux, avec les caméras, que tout le monde est un petit journaliste. Fait que les gars vont pas mal préférer aller se cacher puis rester dans leur confort de leur chambre. Mais ça, c'en est une. Puis moi, j'ai connu le début de ça quand les jeux, le Call of Duty, C'est un que je me rappelle. Moi, j'ai jamais été un gars de gamer. Moi, j'ai arrêté au Nintendo 64. Les gars, j'ai dominé à GoldenEye, puis à Mario Kart, puis après ça, j'ai pris ma retraite des jeux vidéo. Mais il y en a une couple avec qui je jouais qui arrivait le lendemain, puis tu dis, ta barouette, tout t'es passé la nuit sur la corde à linge, qu'est-ce qui est arrivé, ça va-tu? Mais c'était juste qu'il était d'un tournoi de Call of Duty, puis il a joué jusqu'à 5 heures du matin, il s'est couché de 5 à 8, il s'est levé, puis il va faire sa pratique, puis il va aller se recoucher après. Fait qu'il y en a qui perdaient le contrôle avec ça, c'est
mais
ça.
T'as des jeunes enfants, Bruno. Je ne sais pas si... en tout cas, moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Là. Mettons là que t'es Pee-wee Bantam, puis que tu joues une game de saison régulière le samedi ou le dimanche en fin d'après-midi ou soir. Si t'as gamé toute la journée avant d'aller à la game, pourtant t'as pas brûlé physiquement, mais tu t'es mis devant la TV, puis t'as gamé jusqu'à 2 heures avant la game pour aller faire ta poche, t'habiller, puis t'en aller à l'aréna. D'après moi, tu vas jouer une game de merde.
100%, 100%, puis pour bien des choses, que ce soit ta concentration pour n'importe quoi d'autre, après, ça vient hypothéquer tout le reste, entièrement raison, ça va être une bataille, puis j'essaie avec moi, mon gars, mon plus vieux a 8 ans, puis ça va être une bataille que j'essaie de comprendre, puis de parler beaucoup à ceux qui ont des enfants plus vieux, pour voir eux, est-ce qu'ils ont trouvé des solutions, est-ce que eux, ça a été problématique, comment tu fais ça, parce que c'est un peu comme n'importe quoi, c'est un peu comme les bonbons ou n'importe quoi. Tu veux pas que ça soit complètement tabou ici, puis là, il part, puis il s'en va jouer chez ses amis, puis il découvre ça, puis là, il trippe, puis il dit à Addict de l'autre bord. Fait que tu veux bien balancer, mais il faut comprendre cette facette-là, parce que tu as entièrement raison, même dans son comportement, dans son identité, ça change quand il passe une couple d'heures à jouer à ça.
Exact.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Un balan à faire, puis mettons qu'il y a une entente à se faire avec les gens, c'est certain.
OK. Toi, quand t'es arrivé dans la Ligue nationale, t'étais une superstar. J'imagine qu'il y avait énormément de membres de ta famille qui voulaient assister à des matchs. Tu sais, c'est ce que j'ai fait en fin de semaine. Là, j'ai vu la gang à Lafrenière. Il était entre 250-300 à Ottawa qui sont venus le voir jouer parce qu'avec la pandémie, ils l'avaient pas vu de ses chats.
Il était à Montréal le samedi. Ça fait 2 games collés.
Il était 2 games collés, mais il était moins un peu à Montréal, ce que je comprends à cause du prix des billets puis de l'achalandage. C'était la game d'ouverture aussi.
Des plis.
Fait que c'est ça. On aimait mieux payer moins cher puis venir à Ottawa, d'après moi. Comment tu te sens comme joueur? Puis là, t'as des chums d'enfance qui veulent venir. T'as tes parents, mon oncle, ma tante qui t'ont suivi. Puis là, ben toi, tu gagnes 1 million, tu payes-tu pour eux autres? Lui, il gagne 45 000 à la shop. Comment on se sent comme joueur? Puis est-ce que c'est clair qu'on paye pas parce qu'on est cheap ou parce que... Comment ça marche?
Ben, c'est pas évident. Il y a un processus à ça. Au début, comme ça, puis ça dépend de chacun, ça dépend des personnalités. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise avec « Non, arrange-toi, paye pour tes affaires. » Je te dirais qu'en majorité, là, c'est sûr, surtout à cet âge-là, c'est au début. C'est là qu'il y a une grande différence. Parce que plus tard dans ta carrière, tu sais, quand t'es rendu à 28, 29, 30 ans, ben, tes chums, c'est tous des gars qui sont établis, puis à un moment donné, ils ont leur job, ils ont leurs affaires, puis ils veulent payer pour leurs choses. Tu sais, il y a une plus grande compréhension de ça. Fait que même là, des fois, tu t'obstines, puis ils veulent pas. Gars, moi, je m'en viens de voir, je suis content. Je vais payer mon billet. Je m'en viens, c'est une vacance. Gars, il n'y a pas de trouble. Puis des fois, tu leur payes un souper là aussi, ça, pour leur dire merci, mais d'assist. Mais plus jeune, quand t'as 19, 20, 21, 22, tes chums sont encore à l'école, ils n'ont pas une paye stédée, mettons, ils commencent, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est tellement la différence est tellement grande que tu te sens comme, ben, je vais payer la tournée. Pour tes amis proches, pour ta famille proche, ça te fait un grand plaisir. C'est le fun parce que tu es content de les voir, tu les vois pas beaucoup pendant l'année, t'entends, tu le sais, tes chums se voient pour des parties, vont prendre un verre le fin de semaine, sont encore ensemble, toi, t'es dans une autre réalité complètement. Fait quand t'as la chance de les voir, t'es content. Puis à cet âge-là, tu sais que le gars peut pas se permettre de venir à New York 8 fois dans l'année. Fait que tu veux aider parce que t'es vraiment content de le voir. Même chose avec ta famille. Ce qui est drôle, ce qui est dur au début, les premières années, quand tu viens jouer, exemple, à Montréal ou à Ottawa, c'est qu'il y a bien du monde qui sort des buissons. Et le gars que tu as rencontré d'un party quand tu étais à la fête à ton cousin, il y a 6 ans, que là, tout d'un coup, il a réussi à avoir ton métier, tu reçois ces messages-là. Puis ça, ça devient pesant parce que à celui que tu dis non, ben lui, il se revient d'abord, ben, hey, c'est un tout croche, la Lafrenière, c'est un cheap, puis c'est un ci, puis c'est un ça. Puis, tu sais, ben, ça devient comme pesant là-dessus, puis t'en as beaucoup. Fait que tu essaies de. Un peu comme quand tu organises un mariage, tu sais. Tu commences avec la famille, les amis proches, puis là, la seconde que tu rentres dans le cercle un peu plus loin, bien là, il faut que tu invites tout le monde qui peut entrer dans cette catégorie-là, puis après ça, t'agrandis. Fait que ça devient dur à contrôler, mais au début, c'est fou. Là, quand la semaine avant d'avoir un match à Ottawa ou, exemple, à Ottawa pour Hendrix Lapierre hier, qui jouait, lui, avec les Cardinals de Washington contre les Sénateurs, il vient de là, ça devait être la même chose, ou Lafrenière à Montréal, cette semaine avant-là, là, parce que là, ça commence à se parler dans les médias à Montréal. Fait que là, tu te mets à recevoir toutes sortes de messages. Puis ça, c'est toute une gestion.
Est-ce que vous autres, comme joueurs, vous payez plein prix? Mettons, as-tu des gratuités? Comment ça marche pour le joueur, lui, qui, un, veut inviter ses parents, puis après ça, dans un groupe plus large, avez-vous un rabais ou bien...
Ben, habituellement, dans chaque aréna, il y a un certain nombre de billets qui est réservé pour l'équipe.
Pour l'équipe, ouais.
Fait que, dépendamment des places. C'est sûr que venir à Montréal, c'était tout le temps plus compliqué parce que c'était tout le temps plein, fait que c'était limité. Fait que fallait que tu respectes les demandes de l'équipe, fait que tu peux pas avoir accès à tout ce que tu voulais. Souvent, moi, quand je venais ici, bon, mais avec ce que l'équipe avait, s'il y avait d'autres Québécois, c'était plus compliqué. Exemple, avec le Lightning, il y a plus de Québécois, fait que j'en avais moins. Avec les Islanders de New York, j'étais souvent seul comme Québécois, fait que j'en protège, c'était plus facile pour moi. Puis de là, exemple, il y a 50 billets de réservés. Après ça, ben moi, je me trouvais des contacts ou du monde qui en connaissait, qui en avait des billets, puis je pouvais en acheter par là. Ces billets-là, justement, il y a deux catégories. Il y a des billets à autour de 150-180 piastres un peu plus bas. Puis t'as des billets un peu plus haut, là, à 90-95 piastres, mettons, un peu plus haut au Centre Bell. Fait que t'en réserves une catégorie, puis il faut que tu donnes une carte de crédit pour les réserver. Fait qu'ils te sont chargés à toi. Fait que c'est soit qu'ils te sont chargés puis toi, faut que tu surveilles d'abord, ou tu les laisses ce qu'on appelait COD. Ça veut dire que la personne qui arrive pour récupérer ses billets, faut qu'elle les paye là. Mais ça, c'était tout le temps. Des fois, c'était tout le temps une réflexion, savoir, bon, lui, qu'est-ce que je fais? Il me rend du service? Est-ce que je lui paie? Parce que lui, des fois, le monde pense que c'est pour acquis, que ça va être gratuit, ces billets-là. Fait qu'il y en a des fois qui faisaient le saut, et qui commençaient, il fallait qu'ils payent. Fait que c'était assez de mettre ça clair avec eux autres avant d'avoir cette conversation-là, qui des fois était un peu malaisante. Sinon, il arrivait. Là, tu décidais que tu payais toi, c'était ta carte de crédit, puis là, lui, il avait juste à récupérer les billets.
Mais tout ce qu'on parle, là, c'est beaucoup de gestion pareil. Là. C'est pour ça que l'agent est important. Là. Puis dans le cas d'Alexis, je pense qu'il est très bien, Alexis Lafrenière. Je parle, il est vraiment bien entouré, premier choix overall. Là.
C'est qui son agent?
Ouais. C'est la firme. Ouais. Vas-y,
bon. L'agent est très important, mais le gars du PR de l'équipe, le gars des relations.
Ouais, lui aussi, il a un job à faire.
Tout le temps. Même affaire. Fait que lui aussi prenait un grand rôle parce que, oui. Par exemple, c'était Brian qui était à Tampa ou partout à Andrina qui s'occupait de nous autres aussi à New York. Mais eux autres, c'est qu'ils font cette espèce de relation-là puis ils comprennent. Fait que moi, la semaine avant que, par exemple, je venais jouer à Montréal, ben il y en avait un des premiers, c'était Kimber aussi avec les Islanders. Il venait me voir la semaine avant. Fait qu'il venait me voir comme le premier parce qu'il savait que moi, ça allait être une gestion.
C'est sûr.
Il me demandait combien de billets tu penses avoir besoin.
Ouais.
Fais-moi la liste des billets que toi, tu veux payer. Puis tes autres demandes, s'il y a quoi que ce soit, fais-moi cette liste-là.
Ouais.
Mets-moi en contact avec eux. Puis fait qu'il essayait de me libérer le plus possible.
Il faut.
Fait que des fois, si j'avais, je sais pas, moi, une gang de chums de loin qui voulaient descendre, que j'avais pas vu depuis 10 ans, que je sais même pas que j'allais reconnaître, ben j'essayais de les aider, ben je mettais Kimber en contact avec eux la journée du match. Parce que la dernière fois que tu veux, c'est en train de gérer, hey là, je viens d'arriver, là, il manque un billet, il manque ci, il y a ça. Fait que lui, il prenait la balle au bon, puis il prenait la relève, puis il s'occupait de ça surtout la journée du match pour que ça soit bien simple. Mais c'est parce que t'as les billets, c'est une chose. Mais t'en as plein qui veulent aller te voir la veille, qui veulent venir déjeuner avec toi. Tu sais, je me suis déjà fait appeler pendant la journée mon match. Puis le monde voulait venir souper avec moi avant mon match.
Ben oui.
Moi, j'ai pas le temps de souper avant mon match. Il fallait que j'y explique que non, moi, j'étais à l'aréna, je soupe après, va souper, toi à cage s'il faut. Moi, je peux pas faire ça.
Ben
tu sais, il y a une gestion là, de la veille, la journée de, jusqu'à l'après. Tu sais, tout le monde va venir te dire bonjour après. Fait que moi, des fois, je sortais du match encore en sueur parce que je me suis dépêché. Puis t'as 35 personnes qui sont là, qui essaient de voir tout le monde. Puis là-dedans, t'as tes parents, ton frère, ta sœur, que tu vois quelques fois par année. que tu as un autre 5-10 minutes, mais tu as Jean-Jacques qui t'a déjà coaché, assistant coach à Tombe 2C, qui veut te voir aussi, puis qui veut que tu signes le chandail de tous ses enfants, puis qui comprend pas que tu coupes la conversation courte parce que tu as 5 minutes avec tes parents. Fait que tu sais, des fois, il y a une méchante gestion, puis des fois, c'est un peu trop. Tu as juste le goût de dire, « Hey, tu sais quoi, arrangez-vous. Regardez ça à TV, c'est super bon à TS, ces games-là. »
Puis en plus, là, on n'a pas parlé des médias, mais exemple, dans le cas d'Alexis Lafrenière, là, une émission comme Julie Snyder, ils ont certainement fait une demande pour Alexis Lafrenière, je suis convaincu. Il faut qu'il gère tout ça. Là. Puis là, je te parle de Julie Snyder, on est à l'extérieur du sport.
Ouais,
là.
Ouais, ouais,
c'est sûr que ici à Cogeco, ils ont sûrement essayé d'avoir une entrevue avec Alexis, puis RDS, puis TVA Sport. Puis du temps dans une journée, il y a 24 heures. Puis il faut que le joueur ait. Il y a quand même c'est des habitudes, c'est des aides de routine, puis c'est beaucoup de gestion autour d'un joueur de hockey. Beaucoup, beaucoup.
Beaucoup, puis comme joueur de hockey, là, comme exemple Alexis Lafrenière, tu veux être sympathique, tu veux être gentil, ah t'es, oui. pas, t'es pas en guerre contre personne, mais c'est ton temps, puis c'est ta carrière, puis c'est tes affaires, puis tu vas en prendre soin. Ce qui vient pesant, c'est des fois, puis tu as entièrement raison, tout ce qui est au niveau média, la télévision, les radios, les shows, toutes sortes d'affaires, il y a plein d'affaires qui pop. Ah, maintenant, ça doit être encore plus avec tous les balados, etc. Puis tout le monde réussit à tirer des ficelles, puis à réussir à mener à pogner ton numéro. Puis, la semaine avant, je te dis, des fois, là, tu te mets à recevoir c'est tous des messages textes ou des courriels ou maintenant Facebook. Et puis là, ça doit être toutes sortes d'affaires, de monde que tu connais pas, des numéros inconnus. Puis il y en a là-dedans qui sont insistants, ils veulent l'avoir, l'entrevue avec Alexis Lafrenière. Puis le gars, il se dit, hey, moi, je vais faire tout un hit. Je vais me faire connaître à la station ou au poste parce c'est que ça. Je vais avoir réussi d'avoir Lafrenière.
Oui.
Fait que des fois, là, t'es tout seul dans l'autobus, là, t'es en route vers l'aréna, puis t'es en train de gérer des affaires, puis tu te poches, tu pognes rien. Mais voyons donc, il comprend pas. Fait que c'est beaucoup. Fait que c'est sûr qu'un gars comme ça, comme Lafrenière, ça prend une équipe autour de lui, quasiment comme un bouclier pour absorber tout ça, puis pas pour filtrer le mieux possible.
OK.
Émilie Castonguay, l'agent d'Alexis.
OK. C'est ça, ça prend du monde pour donner un coup de main. Ça, c'est clair. D'ailleurs, Lafrenière, il y a une affaire qui m'a fait sourire à la game samedi. Ah bien, puis on disait du temps, là, Samuel Blais, il est venu, la première période a fini.
Vous autres, vous avez été en contact, tu as réussi à entrer en contact un peu avec. Là.
Ben Sam, moi, je le texte pas, je le connais très bien, là. Ben, très bien, je le connais.
Je sais que t'abuses pas, là.
Puis, c'est ça. Non, moi, je vais passer, je me suis arrangé mes billets, puis c'est Sam qui est venu donner des pocs dans le warm-up aux enfants, à ma blonde, puis c'est tout. J'ai pas demandé pour descendre en bas après, rien. Je vais pas là, puis je le sais comment c'est demandant, puis ses parents, ils ont pas vu beaucoup à cause de la pandémie, là. Hey, ses parents connaissent même pas sa blonde. Ben, ils l'ont vu virtuellement. Ça fait un an qu'ils sortent avec. C'est une petite fille de Saint-Louis qui est à New York.
Ils n'ont jamais pu se rencontrer.
Ils ne se sont pas rencontrés. Elle a voulu venir pour le décès du grand-père à Sam, puis ils l'ont pas laissé passer au ligne.
La pandémie a vraiment accentué ça.
Ouais. Puis Sam, il est venu en entrevue au premier entracte. Il est rentré dans la chambre, puis là, il est revenu au banc. On était assis très en arrière du banc. Puis il avait mis une calotte des Rangers, il a pris une shot d'eau, puis là, il a mis le casque d'écoute. Je te le dis, là, l'entracte dure quoi, 18 minutes maintenant? Il est resté là au moins 10 minutes.
À attendre
avant l'entrevue, puis là, elle a duré un certain
pas supposé,
temps.
C'est pas supposé, ça, par contre.
Ben non, c'est pas supposé être long même. J'ai été étonné de voir comment ça a été long.
Ouais.
Peut-être que c'est lui qui est venu trop rapidement, mais j'ai trouvé ça très long.
Hein, Bruno?
Mais il doit y avoir des restrictions, Bruno, aussi. Il doit y avoir un temps où les joueurs doivent être disponibles dans la chambre, puis ils sont plus disponibles pour les
oui.
médias, ça.
Exact. Puis, tu sais, tout ça est contrôlé, puis c'est un peu exactement, j'entends cette situation-là. Puis, il y a des gars que ça dérange moins. Il y a des gars pour qui ils seraient partis ou, tu sais, ils se fâchent. Tu veux tellement être concentré sur ton match, puis c'est que tout le monde va avoir une pièce de ça, puis avoir de l'information, puis être à l'intérieur. Mais veux pas, toi, faut que tu performes. Fait que si Blais, exemple, c'est aussi niaiseux qu'il faut qu'il retape son bâton pour être prêt pour l'autre période, ou faut qu'il fasse aiguiser un patin, ou faut qu'il se fasse traiter. Il a mal à une épaule, puis entre les périodes, des fois, il se fait traiter 4-5 minutes juste pour prendre un peu d'amplitude, puis être capable de toffer la game. Toutes des affaires que toi, tu gères parce que tu veux performer à ton mieux, mais tu te fais tirer un peu du jus à gauche et à droite pour toutes sortes de choses. Il y en a pour qui c'est moins un irritant que d'autres. Mais des fois, ça devient beaucoup quand tu compiles tout ça pour le joueur dans ces contextes-là. Il y a des moments où c'est un peu plus propice, puis c'est plus facile d'avoir un gars dans un bon mood. Mais des fois, dans une situation qu'il faut qu'il soit concentré sur son match, exemple, d'attendre demain pendant 10 minutes, j'en connais une couple qui aurait déposé les écouteurs-là qui seraient rentrés dedans.
Ah, il aurait laissé tomber. Alors, Bruno, je suis content de te laisser plein de contenu pour toutes les autres émissions que tu vas faire aujourd'hui, dont la première victoire du Canadien, dont Toronto sont dans le caca, la Floride sont pas là pour niaiser, mais je veux que tu me gardes, parce que là, j'ai pas le temps, l'histoire de Jeremy Colleton. Je sais pas c'est quoi l'histoire du tableau à Toronto. Je veux que tu me racontes, pas à Toronto, mais à Chicago. Je veux que tu me racontes ça la semaine prochaine. Puis on fera encore une fois une chronique complètement sur autre chose que l'actualité de la Ligue nationale de hockey.
Hey, avec grand plaisir. Puis j'ai tellement, tellement de fun quand je reçois le message de Natacha, qui est superbe, qui me demande « Hey, c'est tes sujets demain, ta préparation. » Puis j'ai un grand plaisir à y tout y envoyer ça, sachant très bien que ça va se retrouver aux poubelles et que ça va être complètement inutile.
On va te payer pareil. OK, merci mon chum. Je me souviens quand même que j'ai pas été invité à ton mariage. Ça, j'ai retenu ça de la chronique d'aujourd'hui. OK, on se parle la semaine prochaine.
T'étais sur le bord. T'étais à l'île. J'allais t'inviter. J'allais t'inviter le voisin d'un cousin qui m'a déjà coaché une fois à tomber. C'était vous deux, là. Vous étiez sur le bord de le faire.
Salut mon chum, à la semaine prochaine. Bye-bye, Bruno Gervais. Ça, c'est un cabochon.
Je l'aime, lui, il est
bon. Oui.
C'est quoi son nom, déjà?
Bruno
cabochon.
Gervais. On vient.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.